Agora, la radio en liberté.
Le magazine.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire.
Tu dis plus l'émission la plus rock et de
ben,
la...
Ben si, bonsoir. Bienvenue dans Onde Noire, l'émission la plus rock de la bande FM.
Peut-être l'émission polar la plus rock.
L'émission polar, oui, effectivement.
Non, mais je ne veux pas te contrarier. Au sommaire de cette émission, dans une première partie, deux coups de cœur, de vrais coups de cœur, de grands coups de cœur. Et dans une seconde partie, nous aurons la joie de recevoir Stéphanie Delestrée pour un gros livre rouge, un nouveau dictionnaire tout à fait passionnant. Donc, dans cette première partie d'émission, on va partir dans le sud des États-Unis. Deux romans qui présentent quelques similitudes et avant tout qui sont pour nous deux très beaux enthousiasmes de lecture, comme je viens de le dire. Les points communs, d'abord, c'est de nouveau dans la planète polaire française, car première traduction pour les deux. D'autre part, ces deux romans se passent à la même époque, les années 50. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on part dans le sud des États-Unis avec ces deux romans. Noirceur absolue et grande qualité d'écriture.
Ils sont aussi publiés chez le même éditeur.
Tout à fait, tu m'as devancé puisqu'ils sont publiés tous les deux aux éditions du Masque. Donc en fait, ça fait penser ces deux romans au meilleur du roman noir américain. En gros, pour les connaisseurs de ce roman noir américain, on va dire moderne, à la croisée de Larry Brown et de Harry Cruz. En gros, pour dépeindre les oubliés de l'American Dream. Et comme tu viens de le dire, donc tous deux publiés aux éditions du Masque. Je tiens à signaler d'ailleurs, je parle de Larry Brown, que William Gay, le deuxième auteur dont on va parler, et Larry Brown ont été tous les deux charpentiers. Encore un petit point commun. Mais allez, je vais laisser commencer Jacques avec Ron Rash.
Donc le premier de ces romans s'appelle Un pied au paradis, One Foot in Heaven. Il est d'un monsieur qui s'appelle Ron Rash. Il est publié donc aux éditions du Masque et il est traduit par Isabelle Reynares. Ça se passe donc, comme Corinne l'a dit tout à l'heure, dans les années 50, tout au début. Deuxième guerre mondiale est à peine finie que les Américains sont lancés dans la guerre de Corée. Nous sommes dans les Appalaches, dans les deux Carolines en fait, un peu dans la Caroline du Nord et un peu dans la Caroline du Sud. C'est une terre donc de paysans qui va bientôt être couverte d'eau car la Carolina Power va construire un barrage. Et c'est l'époque des dernières récoltes, le tabac, le maïs, le chou, les choux. Et un jeune homme a disparu, le shérif enquête. Le récit va être ensuite fait successivement donc par cinq personnages. Tout d'abord le shérif, ensuite le mari, ensuite la femme, ensuite le fils et ensuite l'adjoint. Et l'intrigue va progresser au fur et à mesure des récits et des points de vue. Évidemment, il n'y a pas cinq fois le même récit, parce que chaque fois c'est un peu décalé et vu évidemment différemment. Donc celui qui est mort, c'est Harold Winchester. Déjà, un nom pareil,
on l'invente pas. Ça fait le sud des États-Unis.
Enfin, il n'est pas mort au départ, il a seulement disparu. C'est un vétéran de la guerre de Corée, un beau gosse mais un trublion. Il a ramené de la sale guerre un trophée qu'il exhibe volontiers, qui est une collection d'oreilles qu'il a arrachées aux jeunes qu'il a tués. Les jeunes, évidemment, c'est les Coréens du Nord. Il n'est pas franchement responsable, en fait, parce que en fait, c'est ce que ses instructeurs lui ont appris à faire et qu'il a fait pendant quelques années. Donc c'est vrai que c'est difficile après, quand il revient au pays, il est quand même un tout petit peu frappé. Le shérif, lui, qui va enquêter, c'est pratiquement un paysan, en fait. Il a été paysan tout début de sa jeunesse, mais en fait, il est parti à la ville, il a fait des études, mais son père et son frère restent encore des paysans du coin. Billy, c'est donc le mari. Il a une petite parcelle qui lui permet tout juste de vivre, tout juste avant de devenir ouvrier à la ville, parce que ben, comme ils vont construire le barrage, et ben, il va plus y avoir de terre. La femme, c'est une belle jeune femme, belle parce qu'elle est encore jeune, parce qu'elle trime tout autant que son mari, et dans ces contrées, ben, on s'use la santé assez vite. Elle finit par avoir, comme elle le dit elle-même, a cake in the oven.
Polichinelle dans le tiroir,
on dit en français. Voilà.
Littéral.
Et en fait, ce qui est important, c'est que son mari, lui, ne peut pas avoir de gosse à cause d'une maladie de jeunesse. On est, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans les oubliés de l'American Dream, dans le quart-monde états-unien. Dans les romans, ouais, tu as dit que Larry Brown, on peut parler de Caldwell. Moi, celui qui me fait le plus penser à ce roman de Ron Rash, ce qui m'a fait le plus penser, c'est à Chris Offutt. Qui avait des nouvelles, des nouvelles qui ressemblaient beaucoup à ça.
Qui se passait dans le Kentucky, si je ne m'abuse.
En partie, oui. C'est pareil, c'est Kentucky qui est célèbre pour, entre autres, pour Chris Offutt et puis pour une production dont on a parlé plusieurs fois dans
cette
émission.
Très locale et dont on ne doit pas citer le nom alcoolisé sur cette antenne.
C'est vraiment donc une superbe écriture et le fait qu'il y ait 5 narrateurs, ça permet à Ron Rash de montrer son talent. D'auteur. Il y a beaucoup de dialogues avec du langage paysan, mais pas que ça. Il y a la nature aussi qui est là tout le temps. Superbe nature. L'air est magnifiquement pur. La terre est un peu dure à travailler. C'est vraiment. On se sent dans cette terre avec Ron Rash. On sent que lui, il y a été.
Il faut dire qu'il est prof d'université, lui.
Il est prof d'université, oui, tout à fait. Mais il a. Il a peut-être
fait des recherches.
On sent qu'il aime ce coin des Appalachies, dans lequel, d'ailleurs, il ne vit pas très loin. Et Ron Rash a vraiment l'art de nous décrire ce monde de la nature. Il y a un truc aussi qui est très important, c'est la religion, évidemment. Et surtout que ces braves gens, si j'allais dire, vont subir un peu des trucs de la religion, c'est-à-dire le déluge, en fait, l'eau qui va être du barrage qui va envahir leur terre, et ensuite l'exode, puisqu'ils vont devoir quitter leur vallée pour aller travailler à la ville. C'est d'ailleurs aussi étonnant, c'est qu'une région que les colons américains, en fait, quand ils sont arrivés, ont pris contre leur gré, disons, aux Indiens Cherokee.
C'est une itote.
Voilà, et là, ben, c'est une région qu'ils vont céder aussi contre leur gré au grand capital, disons, aux industriels avides et arrogants, qui, eux, sont en plein dans l'American Dream. C'est vraiment un très grand livre. C'est aussi un premier roman, donc il faut bien dire que c'est vrai que...
Il a écrit beaucoup de...
Il a écrit de nouvelles, un peu de poésie, beaucoup d'articles.
Des recueils de poésie.
Voilà, mais là, c'est son premier roman publié aux États-Unis, aussi traduit en France. Il y en a d'autres qui sont en cours. Train. Voilà, donc je me dis qu'avec un roman comme ça, les suivants...
Ouais, on va se régaler. Donc, et si on parlait un peu de musique?
Un peu de musique, donc ben, plutôt que de parler moi-même du morceau que nous allons passer, je vais laisser Ron Rash en parler lui-même, donc je vais lire un petit extrait. L'auteur, celui qui va nous chanter cette chanson s'appelle Hank Williams Senior, puisque maintenant il y en a deux qui ont suivi, son fils, son petit-fils. La voix de Hank Williams a jailli des parasites, chantant sa solitude. C'était un jeune homme de même pas 30 ans, mais déjà riche et célèbre. Je me suis demandé si... Ce qu'il chantait n'était que des mots pour lui. Sa voix indiquait tout le contraire. Cette voix usée, hélas, savait ce que c'était d'être seul comme un chien. J'avais entendu dire que Williams picolait sec. Il y avait quelque chose au fond de lui que l'argent et la célébrité ne pouvaient pas guérir. J'imagine que cette chose-là, nous devions être nombreux à l'avoir en nous pour que ces disques marchent tellement bien. La solitude, c'était un mot qu'on ne pouvait mettre dessus, mais quelque chose qui allait bien au-delà des mots. C'était une sorte de nostalgie, le sentiment qu'une part de votre cœur était vacante.
Donc Hank Williams.
Hank Williams.
If the wife and I are fussing, brother, that's all right. 'Cause me and that sweet woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Oh, the woman on our party line's a nosy thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Well, if you mind your business, then you won't be minding mine. Mm-hmm.
that wears her hair up high. The boys all whistle when she walks by. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Well, if you mind your business, then you sure won't be minding mine. Tonk a round or two or three. Now, brother, that's my headache. Don't you worry about me. Just mind your own business. Mind your own business. If you mind your business, then you won't be minding mine. Seems to be high tone. I got all that I can do just to mind my own. Why don't you mind your own business? Mind your own business. If you mind your own business, you'll stay busy all the time.
Et ce morceau s'appelait, Jacques?
Comme vous avez peut-être pu le deviner, Mind Your Own Business, c'est-à-dire mêle-toi de tes affaires.
Oh, quand tu étais poli.
Ce que dans ce genre de petites deux régions, certains ont beaucoup de mal à faire, évidemment.
Alors, toujours dans le sud des États-Unis, moi je vais vous parler d'un livre, je ne sais pas si tu l'as précisé, ce livre, Un pied au paradis, était paru l'année dernière, tandis que celui dont je vais parler vient de paraître, ça s'appelle La mort au crépuscule. C'est un livre de William Gay, et je rappelle qu'il est sorti, publié par les éditions du Masque, avec une très, mais vraiment très belle traduction, je veux vraiment le souligner, de Jean-Paul Gracias. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un roman noir, mais c'est un roman très riche. On peut dire aussi que c'est un roman mystique, un roman d'initiation, un roman, comment dire, un roman de la route. En gros, c'est on peut faire ainsi bien. Une allusion à Cormac McCarthy, on y pense aussi. Mais c'est aussi un conte où les maléfices ne sont jamais loin. Car dans le mot maléfice, en fait, il y a mal. Et dans la forêt où nous allons nous enfoncer, le mal n'est jamais loin. C'est un roman, en fait, où les cauchemars se vivent éveillés et où les rêves ne s'envisagent qu'endormis. Tout au moins pour les trois personnages principaux. Ken Tyler vient d'avoir 17 ans et avec sa sœur, il se rend compte, à la mort de leur père, que le croque-mort, du coin, personnage très riche, est en fait un sociopathe qui arrange les cadavres à sa façon et ne réprime absolument pas, mais je peux vous dire absolument pas, ses tendances nécrophiles. Il a d'autres casseroles, d'ailleurs, dans son passé. Ce type très très malfaisant, dénommé Fenton Brice, engage une ordure totale, Granville Sutter, pour récupérer chez les deux ados les documents, c'est-à-dire une série de photos, prouvant ses actes. Sutter, là on ne fait pas dans la dentelle, c'est l'incarnation du salaud intégral. Va donc se lancer à la poursuite des deux adolescents, puis malheureusement plus qu'à la poursuite de Ken Tyler, vous allez comprendre vite pourquoi. Et tous deux vont s'enfoncer dans la forêt, ô combien profonde, ô combien étrange, de Harikin. Un endroit, on va dire, vrai, faux, mystique. Et au fur et à mesure que Ken s'enfonce dans cette forêt, il va rencontrer une série de personnages étonnants, tout à la fois irréels, mais totalement crédibles. Sorti, on doit bien le dire, du cerveau enfiévré de William Gay. C'est très intelligemment fait, car on peut tout à fait suivre, se dire qu'on est dans une sorte de conte initiatique, s'imaginer rencontrer l'homme en fer blanc, comme dans le film. Mais en fait, on peut prendre ces rencontres comme une métaphore délaissée pour compte du rêve américain, on en a déjà parlé deux ou trois fois, et comme tu l'as dit, cette espèce de quart-monde que l'on veut bien nous cacher, tout au moins que les médias veulent bien, ne veulent pas...
C'est sûr que ce n'est pas dans les films d'Hollywood qu'on les voit souvent.
Comme je le disais, on est dans un conte. Ainsi, Sutter, le méchant, sait toujours où vont mener les pas du jeune Tyler. En gros, on dirait un petit peu un chat du Cheshire qui apparaît brusquement. Mais on est sans contexte dans une réalité sociale qu'on se prend en pleine poire, comme je le disais au début, en particulier dans les romans de Harry Cruse. et on retrouve une même exigence de narration, une même qualité d'écriture. Franchement, j'ai été bluffée. Bluffée par un vocabulaire riche, un langage soutenu au service d'un style épuré, dégraissé, qui peut malgré tout aller jusqu'à l'emphase. Mais en gros, pour mieux nous faire apprécier l'ellipse, l'échappée suivante, la fulgurance. Je parlais de conte, mais j'ai presque pensé que j'étais dans un livret d'opéra aussi. Même pas que dans un livret d'ailleurs, dans la musique. En gros, prendre son temps sur certaines périodes pour décrire cette forêt qui rassemble tous les mythes. Tu parlais de nature, là aussi il y a une nature grandiose qui est là depuis des millions d'années. Et William Gay, il est carrément en état de grâce sur certains passages. Et puis, au contraire, pour les êtres humains, ces pauvres petites étincelles de vie que nous sommes, même état de grâce, mais William Gay économise les mots, rend les actes plus abrupts, plus fulgurants. Et oui, la nature, elle est là depuis des millions d'années et nous, on passe un très très bref temps sur Terre. On avait, avec enthousiasme, découvert il y a une vingtaine d'années l'école du Montana, avec en particulier James Crumley. Et il semble bien que les 10 éditions du Masque, avec Marie-Caroline Aubert comme directrice de collection, nous permettent aujourd'hui de découvrir en gros leurs dignes héritiers. Dignes héritiers, pas vraiment d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ces auteurs ont à peu près le même âge que certains auteurs du Montana.
Ils sont plus au sud.
Et oui, c'est vrai que c'est plus au sud, mais on retrouve quand même certaines constantes. Et si je veux un petit peu finir, on peut dire que en quatrième de couverture, comme malheureusement dans de nombreux romans actuels, on cite George Pelecanos, Stephen King, qui sont deux grands du roman noir américain, et pour louer la qualité du roman de William Gay. Ben moi, je suis persuadée que si l'univers littéraire est droit et qu'il tient ses promesses, je gage qu'un jour, ce sera William Gay à qui on demandera de parrainer un de ses auteurs. Parce que vraiment, encore une fois, j'ai employé le terme bluffé, c'est vraiment un roman qui m'a donné une espèce de coup de poing dans l'estomac, aussi bien au point de vue des qualités narratives, de la qualité d'écriture, les personnages aussi, et puis toujours cette frontière entre le réel et l'irréel, toujours ne pas savoir si on est dans un roman qui nous décrit la réalité sociale du sud des États-Unis ou plutôt une espèce de conte philosophique, une espèce de rêve cauchemar réveillé. C'est vraiment une très très belle réussite. Donc on va reciter.
Je voulais juste rappeler à propos de Ron Rash dont j'ai parlé tout à l'heure. Je voulais dire que ceux qui veulent découvrir son texte bientôt sur le site de La Noiraude, www.lanoiraude.com, vous pourrez entendre Ron Rash lui-même qui lit un très court extrait de son, en anglais évidemment, de son roman. Et je vous engage à l'écouter.
Et puisqu'il nous reste une minute et que tu nous parles de La Noiraude, eh bien, j'en profite pour annoncer que cette association fera une animation qui s'appelle le Polar Polaire, donc un tour d'horizon du polar scandinave et du roman noir scandinave. C'est le samedi 24 avril, c'est à 20h et c'est à la médiathèque de Sospel. La découverte de ces romans sera suivie d'un petit buffet nordique, des petites brioches à la cannelle accompagnées d'un petit vin chaud qu'on boit en général en Suède aux approches de Noël.
On prend un petit quelques morceaux de hareng dedans.
Voilà, ça doit être ça, oui. Ça peut-être que c'est vrai qu'on est plus spécialisé dans la gastronomie méditerranéenne, la gastronomie nordique, c'est beaucoup moins notre tasse de thé, mais il y a quelques bonnes petites spécialités. Donc je rappelle, médiathèque de Sospel, 20h samedi 24 avril, un tour d'horizon des 5 pays scandinaves et du roman noir.
Entrée libre et gratuite, bien évidemment.
Entrée libre et gratuite.
On va vous laisser avec les informations. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. 18h30 sur